Nous allons lire trois versets dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Les versets 60 à 63. Et nous allons peut-être nous retrouver dans la peau de ceux qui font cette remarque à Jésus. Après avoir entendu parler Jésus, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Quelquefois, la Bible est bien difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Parce que quelquefois, il arrive que ce soit parce qu'elle est dérangeante. C'était le cas pour ces personnes-là, qui avaient suivi déjà Jésus depuis un certain temps pourtant. On les appelle des disciples. Alors, eh bien, dans ce cas-là, on ne veut pas comprendre la Bible. Quelqu'un faisait cette remarque que ce qui le gênait dans la Bible, ce n'était pas tant ce qu'il ne comprenait pas, mais bien plutôt ce qui était clair pour lui. Mais c'est vrai, et nous allons plutôt nous arrêter dans cette perspective-là maintenant, sur certains points, la difficulté de compréhension est évidente. Alors les chrétiens ont des approches, des interprétations différentes sur un même texte, sur un même sujet de la Bible. Et c'est pour cela que je crois qu'il est important de dire que nous voulons rester humbles face à ces textes qui sont quelquefois un peu difficiles à comprendre, ou beaucoup même. Mais je crois qu'ils sont, s'ils sont difficiles à comprendre, c'est parce que nous nous retrouvons dans une autre culture aussi, un autre paysage. Et cette difficulté que nous pouvons rencontrer peut s'estomper, en partie en tout cas, grâce aux découvertes archéologiques qui nous aident à mieux comprendre le contexte culturel de l'époque pendant laquelle a été écrite la Bible. Grâce aux découvertes linguistiques, nous percevons des choses qui jusqu'alors nous étaient difficiles à accepter ou comprendre. Et ainsi, ces découvertes, cette connaissance générale, peut nous éclairer pour ce qui concerne certaines ombres et permettre de mieux connaître, de mieux cerner la culture de l'époque où a été écrite la Bible. Même si, à partir de ces découvertes, eh bien, tout n'est pas encore expliqué. Nous sommes d'accord et ce matin, nous n'allons pas tout expliquer. Nous croyons fermement que Dieu est celui qui a inspiré sa parole. Et cette parole est la vérité. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la même approche et qui avancent des apparentes contradictions pour affirmer que la Bible est pleine d'erreurs, ce qui prouverait que ce livre, eh bien, en fait, a été écrit par des êtres humains et c'est tout. Avant-hier, je lisais un article, par exemple, où l'auteur montrait que, soit selon Matthieu, soit selon Luc, eh bien, Judas aurait eu deux morts différentes, ce qui prouverait, selon lui, que la Bible contient des erreurs. Et je crois que c'est là que, eh bien, il nous faut, si nous partons du fait que la Bible est la vérité, qu'alors il y a une approche possible qui peut faire concorder les deux récits qui deviennent alors complémentaires et non pas opposés. Je crois que par ailleurs, il y a une lecture qu'on peut qualifié pourtant de simple, mais qui peut être simpliste, et donc qui peut fausser notre compréhension de la parole de Dieu. Ce matin, je vous propose de prendre quelques exemples qui seront un peu comme un patchwork ou comme une peinture impressionniste avec des taches un peu partout, comme ça. Nous allons partir dans plusieurs directions sans qu'il y ait un sujet logique au fil de ce message. Je crois que si nous cherchons, le Seigneur nous aidera à trouver. Il se laissera trouver. Si nous approfondissons la parole de Dieu, alors nous comprendrons de mieux en mieux cette vérité qu'est la parole de Dieu. Donc quelques pistes où nous examinerons des expressions ou des versets un peu difficiles. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais partir dans cette direction. Nous risquons de lire certains textes avec des lunettes modernes sans tenir compte de la dimension culturelle de l'époque, d'il y a 3000 ans, d'il y a 2000 ans. Exagéré, semble-t-il, et même inadmissible, la demande de Jésus de haïr la famille. Luc chapitre 14, verset 26. Haïr. Pourtant Jésus, sur la croix, a bien montré qu'il remettait sa mère à Jean et Jean à sa mère, Marie. Haïr. Mais voilà que si nous examinons un peu le contexte culturel, cela était une façon d'exprimer bien plutôt une priorité. L'engagement à suivre Jésus relativise les autres engagements qui devraient devenir moins importants alors. De plus, quand nous faisons le parallèle avec d'autres textes, par exemple celui de Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est donc bien une priorité à laquelle Jésus nous demande d'agir, et non d'opposition ou d'exclusion. Voilà. Prenons notre exemple avec cette expression « porter sa croix ». Quand Jésus dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10. Alors l'idée que beaucoup ont de cette expression « porter sa croix » est qu'il faut accepter les difficultés de la vie et les souffrances, avec l'idée souvent des mérites qui en découlent. Celui-là, il a porté sa croix, il est sauvé. Deux réponses qui montrent que ce n'est pas cela qu'il nous faut comprendre à travers cette expression. À l'époque, le condamné à mort portait sa croix jusqu'au lieu du supplice. Et durant tout le trajet, il était hué par la foule. Donc sur le plan symbolique, Jésus montre que celui qui le suit doit être prêt à connaître le rejet de la part de la société, à connaître la condamnation des autres, et même qu'il doit être prêt à mourir s'il accepte de suivre le Seigneur. Il y a une autre dimension également dans cette expression. Pour comprendre le mieux possible ce verset, il nous faut en voir d'autres qui peuvent compléter le sens et permettre alors une meilleure compréhension. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus définit se charger de sa croix comme le fait de renoncer à soi-même. Porter sa croix signifie donc mourir à soi-même, à ses intérêts, pour vivre pour Dieu. Ce verset fait suite en fait à la décision de mettre en priorité Jésus et non sa famille. D'accord ? Et puis maintenant, ici, il s'agit de mettre en priorité la volonté de Dieu et non la sienne propre. Une autre expression qui peut être mal interprétée. Fils d'eux. Nous le comprenons comme si c'est le descendant direct. Mais dans la pensée ancienne, le fils peut être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils même. Un peu comme l'expression « les pères » qui peut signifier « les ancêtres » et non pas le père en ascendance directe. Alors pour ne pas voir cela, certains affirment que la terre a 6000 ans ou quelque chose comme ça, hein. En cumulant les différents âges des générations qui sont mentionnées dans les généalogies de l'Ancien Testament. Et facilement, alors, on traite d'infidèles, ceux qui n'acceptent pas cette interprétation. Il nous semble exagéré que Jésus empêche quelqu'un qui veut le suivre d'aller enterrer son père. Ça, ce récit est dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, verset 59. Mais cette expression, à l'époque, peut vouloir impliquer rester avec son père jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que c'est pour une durée indéterminée que cet homme dit « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père », ça veut dire de rester avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Donc, c'est vrai que là, on a une approche différente parce que quand même, enterrer son père dans notre vocabulaire actuel, c'est quelque chose d'essentiel. Mais voilà. Mais certainement qu'il y a une autre portée, et c'est pour ça que Jésus lui dit « Suis-moi maintenant ». Ou quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit « Ne saluez personne en chemin ». Alors pour avoir pris à la lettre cette parole de Jésus, certains qui évangélisaient se sont fait prendre pour des impolis. Que voulait dire Jésus ? En fait, saluer quelqu'un à cette époque-là, c'est d'abord dire de shalom, d'abord à droite et puis à gauche, et puis échanger des nouvelles de chacun, parler des affaires du jour, et puis à la fin, donner de shalom à droite et à gauche à nouveau. Voilà. Paraît-il, ça pouvait prendre une demi-heure. Alors, peut-être qu'on comprend un peu mieux, ne vous arrêtez pas une longue période. Hein? Voilà. Je crois qu'il y a un autre domaine où l'on a quelques difficultés, pour nous occidentaux du 21e siècle, mais déjà au 20e, c'est la portée symbolique que certains textes peuvent avoir. Tout à l'heure, nous avons parler, je ne me souviens déjà plus, dans le psaume 71, il est question d'un attribut physique de Dieu. Je ne sais pas si c'est le bras de Dieu dont il est question. Mais physiquement, Dieu nous est présenté d'une certaine manière dans certains versets qui parlent de ses yeux, de ses mains, de ses pieds, de ses bras, de ses oreilles, de son cœur, etc. Dieu a-t-il un corps ? Comme nous, mais au-delà de l'aspect physique qui nous est présenté, cela sert à parler de l'action de Dieu. Parler de ses oreilles veut dire qu'il nous comprend, qu'il nous écoute, qu'il est attentif à ceux qu'il appelle. Quand Dieu parle de ses mains, il montre qu'il est un Dieu qui agit. Et c'est vrai que, eh bien, imaginer Dieu avec un corps physique serait à l'encontre de ce que Jésus affirme quand il dit que Dieu est esprit. Et il dit par ailleurs, un esprit n'a ni chair ni os. Donc le symbole peut être l'élément qui dirige vers ce qui est essentiel. Et c'est essentiel qu'il faut considérer. Un autre exemple, à propos de certains actes dont il est question dans la Bible. Je pense déjà à l'action d'huile, où on verse de l'huile sur celui qui demande la guérison de Dieu. L'onction d'huile, l'important n'est pas l'huile, mais ce qu'elle signifie. Parce qu'elle est le symbole du Saint-Esprit, et cela leur dirige les regards vers ce Dieu qui guérit. Il faut donc que l'élément matériel, en l'occurrence c'est l'huile, soit pris d'une manière symbolique, en percevant ce qu'il représente. Sinon, alors on est proche de la superstition. C'est la même approche avec la Sainte Cène que nous allons prendre tout à l'heure. Les éléments physiques, le pain, le vin, nous aident à mieux comprendre leur signification spirituelle. Même le baptême, il ne s'agit pas de supprimer l'élément matériel qui est l'eau, mais de voir à travers cet élément physique que le fait d'être trempé dans l'eau, ça c'est la noyade, c'est la mort. Et le fait de ressortir de l'eau, c'est la résurrection. La mort spirituelle et la résurrection, la nouvelle vie que Dieu donne, c'est cela qu'il nous faut considérer avant tout. Il y a aussi l'aspect symbolique que nous pouvons voir, et ça c'est presque plus difficile encore, de certains nombres dans l'Écriture. On peut se poser quand même la question de la compréhension moderne que nous avons en lisant certains textes où il y a des chiffres. Et on peut se tromper en considérant, en lisant, en ayant une lecture mathématique. Nous, quand nous lisons le chiffre 7, nous pensons qu'il est égal à 5 plus 2. Mais dans l'Antiquité, ce chiffre parle moins d'un nombre exact que de la notion de plénitude. Par exemple, lorsqu'il est parlé des 7 esprits de Dieu. Le chiffre 10 aussi a une portée souvent symbolique. Il y a par exemple plusieurs listes dans l'Ancien Testament, des généalogies avec chaque fois 10 générations. Ah. Mais peut-être qu'il y a eu certaines générations au milieu qui ne sont pas mentionnées, mais la pensée de l'écrivain est de montrer la perfection dans le déroulement de l'histoire humaine, dans le plan de Dieu. Le chiffre 40 parle chaque fois d'une épreuve très longue. Nous, nous affirmons par exemple que Élie a marché 30 jours plus 10 jours. Donc ça fait 40 pour aller jusqu'au Sinaï. Mais il est dit, cette expression, 40 jours et 40 nuits. Comme plus tard, Jésus va être 3 jours et 3 nuits enseveli dans le tombeau. Mais certainement, le but de l'écrivain est de mettre l'accent sur l'épreuve très longue qu'il a supportée pour aller jusqu'au Sinaï pour Élie. Idem pour les 40 jours de tentation dans le désert pour Jésus. Même si Jésus est resté 30 jours plus 10 jours dans le désert pour être tenté. Mais là n'est pas le plus important. Ce chiffre 40 veut parler de cette longue épreuve qu'il a subie. Le danger est de mettre l'accent où Dieu ne le met peut-être pas et faire subir à la vérité des distorsions. Quand Jésus annonce qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, ou, dit-il ailleurs, qu'il ressuscitera 3 jours après avoir été mis à mort, on pourrait en conclure qu'il s'est trompé. Du vendredi après-midi au dimanche matin, cela fait 1 jour et demi, et non pas 3 jours et 3 nuits. Et pourtant, les pharisiens ont bien compris qu'ils ne parlaient pas de jours de 24 heures, puisqu'ils ont placé leurs soldats dès le samedi matin. Le chiffre 3 est pris par Jésus d'une manière symbolique. Par ailleurs, il parle la plupart du temps de sa résurrection le troisième jour. Et là, c'est une notion du temps qui nous est commune, parce que de vendredi, premier jour, samedi, deuxième jour, dimanche, troisième jour. Ça cadre avec notre compréhension moderne, oui. Nous comprenons les jours comme étant de 24 heures. Mais dans plusieurs textes, un jour correspond à une période. Donc c'est difficile quelquefois de lire certains textes, le récit de la création en particulier, alors que nous pouvons le comprendre aussi comme étant cette période, plus ou moins longue, alors là, nous ne savons pas mesurer le temps de ces périodes. Dans l'Apocalypse, les chiffres sont-ils à prendre littéralement ou symboliquement? Alors, suivant quelque part nos conceptions doctrinales, certains textes, nous les lisons littéralement, d'autres symboliquement, et puis on ne sait pas trop. Hein? C'est là aussi qu'il faut certainement l'humilité. Prenons l'exemple des 144 000 qui seront sauvés dans l'Apocalypse au chapitre 7. Ils sont en fait la multiplication de chiffres qui sont très souvent très symboliques dans la Bible, le 12 et le 1000. Et ces deux chiffres parlent de la multitude souvent. Et si on prend ce chiffre à la lettre, alors il faut prendre aussi à la lettre ceux qui sont sauvés, à savoir que ce sont les 12 tribus d'Israël seulement. Ah, vraiment pas évident de tenir compte de l'aspect symbolique dans la Bible. Alors, quelquefois, pour ne pas risquer d'attribuer à la Bible des erreurs par notre interprétation, on préfère prendre à la lettre ces affirmations. Mais on risque aussi de la fausser en ne voyant pas le symbole et la portée qu'il y a derrière. Et puis, je dirais aussi que notre vocabulaire, nous devons faire attention dans nos versions, quelquefois. Attention au sens de certains mots. Nous employons l'expression « au nom de Jésus » pour terminer notre prière. Mais au fait, pourquoi ne pas la commencer par cette expression? Jésus nous enseigne à prier de cette manière. Mais là aussi, nous pouvons tomber dans une forme de superstition, comme si notre prière allait être peut-être un peu mieux exaucée, écoutée par Dieu si nous prions de cette manière-là, avec ces mots. Mais le sens que donne Jésus va au-delà des mots. Cette expression signifie dans l'union avec lui et par son intermédiaire. Alors nous pouvons très bien ne pas dire cette expression et être agréés par Dieu dans notre prière, parce que nous avons conscience que notre prière est faite en communion avec le Seigneur, dans l'union avec lui, et grâce à lui, par son intermédiaire. Un mot qui peut être gravement galvaudé aujourd'hui, c'est le mot « repentance ». Alors on l'a défini facilement comme le regret des fautes. Je me repens, je regrette. Oui. Judas a regretté son acte et il s'est pendu. Mais en recherchant avec d'autres versets la signification, on peut voir une autre dimension. Et y est ajouté systématiquement le désir de vivre autrement, de vivre selon la volonté de Dieu. Alors ce changement est d'abord intérieur, dans la pensée, et cela débouche sur un changement de comportement. Si on s'arrête à la première notion, celle du regret, alors cela s'arrête à la confession des péchés. Mais la deuxième approche, avec ce désir de vivre un changement de vie, nous pousse à vouloir vivre pour Dieu, selon sa volonté, transformé par lui pour le vivre. Alors c'est la même chose avec l'expression « la seconde mort » qui n'est pas la cessation de la vie, mais la séparation d'avec Dieu. Quand on est mort, c'est pour la vie. Notre notion de la chair ou de la foi sont comprises aujourd'hui différemment qu'il y a 2000 ans. Parce que ce sont des termes qui sont pour nous un peu vieillis, donc mal compris. Et je crois qu'il y a nécessité d'une traduction qui donne les différentes nuances de ces termes. Alors aujourd'hui, par exemple, le terme « la chair », qui n'est pas nos muscles, hein, mais on le traduit par « l'homme livré à lui-même », l'homme sans Dieu. Hein. La foi... On traduit alors beaucoup plus, parce que la foi, ah ben qu'est-ce que vous voulez, moi ça ne m'est pas donné. Donc, je ne suis pas responsable. Hein. Mais la foi est traduite aujourd'hui par la confiance en Dieu. Au lieu de l'homme animal, comme c'est traduit dans nos versions secondes, dans 1 Corinthiens chapitre 2, eh bien on traduit par l'homme réduit à ses seules forces. On comprend mieux quand même. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, quand on lit « Jésus est le chef et le consommateur de la foi », on est assez insensible peut-être à la signification de cette affirmation, mais on comprend mieux avec les traductions récentes. Jésus nous a ouvert le chemin de la foi et il apporte à la perfection. Voilà. Voilà, alors j'ai pensé à ce texte dans la seconde épître de Pierre, où Pierre reconnaît quand même qu'il y a des difficultés de compréhension. Versets 16 à 18, quand Pierre parle de Paul et de ses écrits, il parle des lettres de Paul où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus, prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors oui, face à ces difficultés, et on ne les a pas toutes épuisées, autrement c'est nous qui le serions peut-être avant, on aurait peut-être plus envie d'arrêter de s'appuyer sur la Bible. Ah. Heureusement que nous savons que ce n'est pas qu'avec notre intellect que nous devons la lire, mais en demandant au Seigneur son aide, son esprit, comme les disciples qui demandaient l'aide du Seigneur pour comprendre les paraboles qu'il donnait. Eh bien, cela n'exclut pas le fait de chercher, de demander, d'approfondir pour mieux comprendre. Jésus dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez ». Et notre but, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, peut-être certaines ont été un peu éclaircies, hein, et puis il y en a d'autres. Hein. Donc, au-delà, notre but devrait être, malgré les difficultés, de nous attacher à la parole, comme le demande Jésus, pour que, dit Paul, la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'il est long ce chemin de la découverte, mais il est celui de la vérité et de la vie. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu t'es révélé à travers ta parole. Merci parce que nous savons quelle est la vérité. Tu vois notre difficulté à la comprendre et quelquefois à bien la comprendre. Tu vois nos questions et nos interpellations face à certaines affirmations. Merci parce que tu veux nous aider dans notre recherche. Tu veux nous aider à comprendre ta parole toujours mieux. Et merci parce que nous voulons nous appuyer sur ce qui est tellement clair pour nous et aller de l'avant dans notre connaissance de toi, de ta personne, de ton œuvre. Alors merci Seigneur, parce que tu veux toi-même nous éclairer et nous guider pour que nous ne nous arrêtions pas dans cette marche avec toi, dans notre croissance par toi et pour toi. Merci notre Dieu pour ta parole et merci parce que eh bien, tu continueras à nous éclairer, à nous faire du bien à travers elle. Merci, notre Dieu, pour ce privilège d'avoir ta parole et de pouvoir nous diriger d'après elle. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Amen.